Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Si la liberté constitue un besoin fondamental lorsqu'on est parent, comment aider ses enfants à devenir autonomes? Si les enfants plus jeunes se sentent généralement dépendants de leurs parents, les adolescents ont besoin d'être accompagnés sur ce chemin de l'autonomie. Mais comment le faire? Dans cette émission, je reçois au micro Benoît et Isabelle Dacre-Vreit. Benoît, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Alors on vous connaît déjà. Je rappelle Benoît que vous êtes conseiller conjugal, familial et coach professionnel. Et pour vous Isabelle, après avoir exercé ce beau métier d'infirmière, vous êtes coach de vie. On peut retrouver cette émission du jour en podcast avec une fiche correspondant aussi, je dirais, à vos numéros de téléphone, adresse aussi pour prendre contact avec l'un ou l'autre. Alors oui, au programme, on va aborder ce thème de l'accompagnement de nos adolescents sur ce chemin, au fond, qui fait grandir, qui peut faire paniquer aussi beaucoup de parents, cette période de l'adolescence, où l'adolescent a besoin un peu d'indépendance, de liberté et puis d'autonomie. Alors, on s'y prend comment? Je me tourne vers vous, Isabelle. À vous la parole, oui. À vous les micros.
Merci Nathalie. Le cycle de l'autonomie de nos adolescents, c'est un rêve pour nous parents d'être qu'ils soient autonomes. Alors parfois on les voit, par contre ça c'est les petits signes qui vont nous montrer qu'il y a quelque chose qui frotte, qui va pas bien, qui va nous mettre peut-être nous aussi parents en tension. Mais voilà, quand on voit nos ados qui sont démotivés, qui se sentent nuls, qui sont tout mous, qui ont envie de rien faire, qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, c'est parfois un petit peu déprimé même, il faut le dire. Puis après on a aussi ces ados qui sont révoltés, qui sont en colère, qui claquent les portes, qui râlent à toutes les propositions des parents. Puis on a aussi celui qui transgresse, hein, ça peut être les trois en même temps, hein, mais je ne vous souhaite pas, mais il y a celui qui transgresse, celui qui va mentir, qui va fuguer, qui va voler, etc. Voilà, ça c'est fait partie des manifestations de reconquête, de conquête. On pourrait dire reconquête parce qu'il y a bien eu des prises d'autonomie de temps en temps, heureusement, dans leur vie d'enfant. Et c'est un besoin d'exister, en fait. Ils ont besoin d'exister, de se séparer, d'une certaine façon, des parents. Et ce sera bien ça le but pour nous, parents, c'est d'en faire des adultes autonomes, et même plus qu'autonomes, c'est-à-dire même indépendants.
Et au fond, ce que vous venez de décrire, hein, qui peut faire paniquer aussi certains parents qui vous écoutent, Isabelle et Benoît, la transgression, le mensonge, la rébellion, c'est une étape normale dans ce temps d'apprentissage pour devenir au fond un homme ou une femme plus
bien
tard.
C'est normal, mais en tout cas ça peut passer par là.
Ça peut passer par là.
Heureusement,
laissez rêver les parents encore.
Oui, c'est ça.
Oui, ne les découragez pas.
Il est bénéfique en fait que ça passe par là, et c'est ça qui est difficile à admettre pour les parents, parce qu'en fait il y a un certain confort pour le parent d'avoir l'enfant qui est totalement dépendant, qui a besoin de nous, qui est obéissant, qui est conforme à nos attentes, et il va falloir, et on voudrait qu'il accède à une certaine maturité, à prendre des initiatives, être responsable de sa vie, savoir gérer ses études, etc. Et gérer les choses sans faire de bêtises, en faisant les bons choix, les bons choix, peut-être ceux qui nous ressemblent. Et en fait, il va falloir renoncer à cette idée de passer directement à cette étape d'autonomie, parce que l'enfant, il a besoin de conquérir sa propre autonomie, et donc ça passe par des étapes, et des étapes incontournables avec des aspirations du jeune, des conquêtes, et des deuils pour le jeune, des deuils pour le parent. Alors, je vais y revenir sur ces étapes, mais juste pour comprendre, les parents, ils ont connu ça dans la petite enfance. Le petit enfant, il conquiert son identité quand il est petit. Il se détache de la fusion avec la mère, de la dépendance totale. Et prenons l'exemple de l'enfant qui apprend à manger. Eh ben, un enfant qui prend son biberon, il est totalement dépendant. Un enfant auquel on donne à manger à la cuillère, il est totalement dépendant. Et puis un jour, il détourne la tête, il dit non. Il dit, enfin même sans savoir encore parler, il va détourner la tête pour refuser la cuillère. Il va montrer son indépendance, son besoin d'exister, et de ne pas être totalement conforme, totalement soumis. Et puis à un autre moment, il va plus tard, il va attraper la cuillère et vouloir la mettre lui-même dans sa bouche. Il va vouloir faire lui-même, moi tout seul. Il va en mettre plein les murs de la cuisine, mais c'est pas grave, il veut faire lui-même. Et puis, il va conquérir peu à peu son autonomie de petit enfant qui sait manger tout seul. Eh bien, à l'adolescence, on retrouve ces étapes-là, on les retrouve dans une conquête de liberté et d'existence, parce que le jeune, il veut conquérir son statut d'adulte. Il veut, et nous ne sommes pas là pour faire des enfants en tant que parents. Hein. Les enfants nous mettent en situation de parents, mais notre rôle de parents, c'est pas de faire des enfants, c'est de faire des adultes. Donc comment est-ce qu'on va les accompagner dans cette prise d'autonomie? Eh bien, les étapes, on va les retrouver. Il y a une première étape, après cette totale dépendance, eh bien, de rébellion, de contre-dépendance, de s'affirmer, d'exister, ce besoin de dire que j'existe en disant non.
Au fond, vous décrivez, excusez-moi, mais la période qui est le plus redoutée pour les parents. Hein.
Voilà, alors, elle est redoutée, la suivante est pas mal non plus. Parce que là, il va s'opposer. Et il va s'opposer, mais il est toujours dans la relation avec le parent. Et il faut consentir à ce qu'il refuse l'obéissance, à ce qu'il existe. Mais l'étape suivante, c'est je fais tout seul. C'est l'indépendance, c'est je me débrouille, vous occupez pas de ce que je fais.
Je suis pas forcément responsable.
Mais je suis pas forcément responsable. Donc je vais éventuellement faire n'importe quoi, mais j'ai besoin de prouver que je suis capable, d'éprouver ma puissance, de découvrir mes capacités. Et donc, il y a un deuil de la passivité, de l'irresponsabilité, de la révolte pour prendre les choses en main. Mais de la part du parent, il y a un lâcher prise. Il y a refuser d'être dans le contrôle total pour lui permettre cette prise d'autonomie. Mais comment le faire en assurant les sécurités nécessaires? Bon, ça, c'est la deuxième étape. Et puis l'interdépendance, ça va être quand il va peut-être pas faire n'importe quoi, il va comprendre qu'il est aussi en relation avec d'autres, il a besoin de construire, de bénéficier d'une reconnaissance, et donc il va construire une interdépendance, et là il va faire le deuil de l'insouciance pour devenir un peu plus responsable. Et le parent, c'est quoi son deuil? Eh ben, c'est de renoncer à une supériorité pour rentrer dans un rapport d'égal à égal.
D'adulte à adulte.
Donc on n'est plus sur le contrôle, on n'est plus sur la maîtrise et quelque peu la domination de son enfant qui est dans ce temps aussi de l'adolescence en vue du devenir et de cette maturité d'en faire un homme et une femme. Ça, c'est une période inconfortable pour les parents.
En fait, c'est ça qui va nous tenir peut-être nos parents, c'est-à-dire de savoir que c'est ça l'objectif, c'est de faire de nos enfants des enfants autonomes, des adultes autonomes et responsables. Parce que c'était responsable de ses actes, mais c'est pas en interdisant ou en donnant un cadre trop strict que ce qu'on va arriver à ça. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à faire, c'est de pouvoir permettre à notre adolescent de s'exprimer sur ses oppositions, en fait. Hein, c'est pourquoi est-ce que tu t'opposes à ça? C'est quoi ton besoin finalement? Si on prend l'exemple du téléphone, un jeune qui fait des pieds et des mains à ses parents pour avoir un téléphone. Alors c'est de plus en plus tôt, hein, mais ça reste en début d'adolescence quand même encore. Hein. Moi je veux un téléphone parce que tout le monde en a un dans ma classe. Et moi je suis regardée de travers parce que j'ai pas de téléphone. Vous voyez, déjà c'est une explication. Nous on n'entend pas ça forcément, puis nous on a des peurs par rapport au téléphone. Est-ce qu'il va savoir gérer? Non, il ne saura pas gérer, c'est sûr. Est-ce que je sais, moi, adulte, gérer mon téléphone? Ça c'est une autre bonne question. Et peut-être que du coup, nous parents, si on dit non au téléphone, c'est parce que, est-ce qu'on va l'aider? Est-ce qu'on sera aidant pour lui apprendre à gérer son téléphone? C'est toutes ces questions-là. Alors, comment est-ce qu'on va mettre un enfant en responsabilité d'avoir un téléphone? C'est-à-dire, on va dire, ok, tu auras un téléphone, mais de quoi tu vas avoir besoin pour mieux gérer ce téléphone?
Permettez-moi, mais là, vous soulevez, Isabelle, peut-être la peur peut-être des parents. Donc, comment, parents, gérer ses propres peurs et ses propres craintes?
Mais en fait, quand les parents voient leur adolescent, leur jeune, ruer dans les brancards et refuser ou demander, avoir des revendications pour sortir finalement de la dépendance parentale, qu'est-ce que ça nous renvoie de les entendre nous dire non? Est-ce que on est en train de se sentir remis en cause dans notre rôle, remis en cause dans notre autorité? Est-ce que c'est un rapport de pouvoir qui est en train de se jouer, ou est-ce que c'est au service du jeune et de sa croissance? Où sont les limites? Comment est-ce qu'on va gérer ces limites pour peut-être renoncer, lâcher prise et renoncer à un pouvoir sur l'enfant qui est confortable, où on est en position de domination, pour exercer un pouvoir pour l'enfant, c'est-à-dire pour le mettre en capacité d'être autonome, et donc accepter qu'il se détache, accepter qu'il nous dise non. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous dise non? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce que on a envie que l'enfant sache dire non aux gens qui veulent abuser de lui? Sache dire non à ceux qui le harcèlent ou qui réclament des choses anormales? Est-ce qu'on veut que ce soit un adulte plus tard qui sache se positionner contre l'injustice et qui dise non? Oui, mais alors, est-ce qu'on accepte qu'ils nous disent non aussi pour contester notre autorité?
Finalement,
parce qu'il a besoin d'exister.
Isabelle,
c'est son terrain de jeu, c'est son terrain d'entraînement. Il commence à s'entraîner, comme à 2 ans, il s'est entraîné à dire non, on s'en souvient.
Il poursuit cette étape de l'adolescence.
Il poursuit cette étape-là, et ça le construit.
En fait, elle est nécessaire.
Mais elle est
quand on vous écoute l'un et l'autre.
Absolument nécessaire, et c'est bien ça qui va peut-être...
Et rassurante, permettez-moi, mais cette étape de rébellion, de transgression peut-être, cette période où l'ado s'autorise à dire non à l'un de ses parents... C'est ce qui va, au contraire, lui donner, je dirais pas ce pouvoir, mais cette liberté de devenir plus tard un adulte,
hein, oui.
Ce que vous venez de dire.
En fait, il donne ses propres limites, finalement, en disant non. L'adolescent va finalement dire, moi aussi, j'ai des limites. Alors, c'est pas les limites de mes parents, mais moi aussi, je voudrais mettre des limites.
Alors, vous parlez d'un terrain de jeu. Sur ce terrain de jeu, il y a des règles.
Bien sûr.
Un
minimum de règles. Et puis il y a aussi toute la confiance qu'on va pouvoir aussi accompagner. Enfin, il va falloir accompagner ce jeune dans cette prise d'autonomie, dans cette nouvelle étape, que ce soit le téléphone ou autre chose, de le savoir de dire non. Ça s'apprend et ça s'accompagne.
Avec discrétion parfois. Un peu plus de discrétion.
Plus ça va aller, plus il y aura discrétion.
Voilà, le parent doit être moins envahissant peut-être sur le territoire de l'adolescent.
Et pas forcément absent, attention. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut rester présent, on en parlera peut-être dans la prochaine émission, comment trouver la bonne posture sans étouffer notre ado et en même temps lui trouver, ne pas déserter le terrain de jeu.
Donc on reste sur ce terrain de jeu en tant que parent, hein, on ne se décourage pas. Benoît, le dernier mot peut-être,
oui.
En conclusion, désolée, c'est un 12 minutes d'émission.
Oui, bien sûr, mais il faut permettre à l'enfant d'exister, et vous parliez de transgression, c'est peut-être en lui donnant des permissions et en gérant ses limites et en lui donnant des protections nécessaires qu'on lui permet d'exprimer, d'exister en exprimant sa différence et finalement de diminuer son besoin de transgression parce qu'il peut exister.
Merci pour cette intervention, cet épisode du jour. On vous retrouve la semaine prochaine, ici même, toujours sur ce terrain. On rejoint le terrain aussi des adolescents et des parents. On évoquera avec vous toutes ces questions aussi de permission. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission est en podcast avec une fiche où on retrouve, je dirais, numéro de téléphone, toutes les adresses possibles si on veut prendre contact avec vous, Isabelle et Benoît Dacrevreit. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.